5 du CNRS, il partage avec nous les mystères mathématiques qui se cachent derrière les intelligences pas si artificielles que ça.
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
RFI 7h30 à Paris et Cotonou 6h30 à Bamako. Ce journal, Édouard Dupénoat, commence par une promenade dans les rues de Tanger.
Oui, qu'un observateur distrait pourrait presque confondre avec Dakar, la ville marocaine qui est en fait le point de chute des Lions de la Teranga pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et les Tangérois font les yeux doux à ces visiteurs du Sud. Au Bénin, les observateurs électoraux globalement satisfaits, ils livrent leurs impressions après les élections législatives et communales qui se tenaient ce dimanche. Les usines attaquées au Mali avant-hier, symbole de la guerre économique que livrent les terroristes liés à Al-Qaïda. Retour sur cette triple attaque de dimanche contre des sites qui produisent essentiellement des matériaux de construction. À suivre aussi dans ce journal, la colère des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Ils s'attendaient à une très bonne campagne, vu les prix borchants qui ont été fixés cette année. Sauf que des camions sont bloqués au port d'Abidjan. Ils ne peuvent pas décharger et exporter leurs marchandises.
Nous sommes à 24 heures des demi-finales de la CAN où le Sénégal ouvrira le bal face à l'Égypte.
Et c'est donc à Tanger que commence ce journal, la ville tout au nord du Maroc, camp de base des Lions du Sénégal. Les hommes de Pape Thiaw, jusque-là auteurs d'un parcours quasiment sans faute, 4 victoires, un match nul, ils se verraient bien prolonger encore un peu leur séjour marocain, notamment parce qu'ils se sentent bien à Tanger et que la ville leur rend ce sentiment. Thomas de Saint-Léger croise ainsi des supporters qui n'ont pas que les Lions de l'Atlas au cœur.
Au marché de Grand Soko, dans les boutiques alentours, c'est avec le maillot rouge du Maroc l'autre produit phare, le tricot vert et blanc du Sénégal, que tente de négocier Omar, un jeune Tangérois.
Pour supporter le Sénégal le mercredi. J'ai des amis qui ont déjà acheté les maillots. Maintenant, c'est mon tour.
Maillot écharpe, drapeau, cœur d'un Sénégal et plus appelé Masotu.
Ses bons amis font les bons comptes de Ndombe Diagne, venu de Rufisque, avec ses produits aux couleurs du Sénégal.
Ils disent automatiquement Sénégal rec. Ensuite, ils demandent le prix. Les Marocains, c'est notre deuxième famille, en fait. On dirait une petite Dakar.
Il y a une hype autour du Sénégal en ce moment.
Mehdi est franco-marocain. Il porte lui aussi le maillot des Lions sénégalais. Et il sera au stade de Tanger mercredi avec son ami Yanis.
En termes de valeur, en termes de bienveillance, en termes de générosité, que ce soit la teranga sénégalaise ou la bienveillance marocaine, on se retrouve pour beaucoup. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on est autant frères les uns les autres. Quoi.
Mais en cas de finale avec le Maroc, il faudra choisir, forcément.
Si on pouvait partager la coupe, on partagerait la coupe. Ouais.
51% pour Maroc, 49% pour Sénégal. Vraiment tout petit geste.
Mais même si le Sénégal gagne, je pense qu'on sera quand même heureux. On n'aura pas d'amertume dans le cœur.
Et si par malheur l'une des deux équipes venait à être éliminée, le favori pour la finale est tout trouvé. Thomas de Saint-Léger, Tanger RFI.
Cette Coupe d'Afrique des Nations, ces demi-finales qui approchent, on en reparle évidemment dans un peu moins de 10 minutes avec le journal complet de Victor Missistrano.
Au Bénin, les résultats du double scrutin de dimanche attendu d'ici après-demain.
Oui, c'est ce que dit désormais le président de la Cour constitutionnelle. Nous pensons que ça ne dépassera pas jeudi, déclare Kossi Dorothée Sossa. La plateforme électorale de la société civile qui avait déployé 1200 observateurs dans le pays a, elle, déjà rendu ses conclusions après ces élections législatives et communales. Ces scrutins se sont, dit-elle, déroulés globalement de manière pacifique, Magali Lagrange.
La plateforme électorale de la société civile note d'importants écarts de participation selon les départements, sans plus de précision pour l'instant, et une différence entre les deux scrutins qui laisse entrevoir une préférence des électeurs pour les législatives. Pour rappel, 5 partis étaient en lice pour l'Assemblée, 3 de la mouvance présidentielle, 2 de l'opposition, dont les démocrates. Le principal parti de l'opposition n'a en revanche pas pu prendre part aux communales pour lesquelles seuls 3 partis concouraient. Le communiqué revient aussi sur le contexte des scrutins, des réformes politiques, institutionnelles et électorales ces dernières années qui ont modifié de manière significative le système partisan ainsi que les règles d'organisation et de participation aux élections avec pour conséquence des crispations entre acteurs politiques. Autre point, celui des retards observés dans le démarrage du vote dans des bureaux de certains départements comme le littoral et l'Atlantique, mais une durée de vote de 10 heures a bien été respectée dans 95% des bureaux observés. La société civile appelle à maintenir un climat apaisé dans la période post-électorale. Magali Lagrange, Cotonou, RFI.
On en sait un peu plus ce matin sur la série d'attaques qui ont visé avant-hier matin des usines dans le sud-ouest du Mali, dans la région de Kaï. Les terroristes du JNIM ont ainsi ravagé l'usine Diamond Center. Elle produit du ciment, l'usine des carrières et chaux du Mali et enfin l'usine Stones qui produit des carreaux. Trois sites qui avaient déjà été attaqués il y a 6 mois. Aucun mort n'est à déplorer, mais les engins, les véhicules et les bâtiments ont été méticuleusement incendiés. C'est un nouveau coup dur porté à l'économie malienne dans le cadre de la stratégie du groupe lié à Al-Qaïda, David Baché.
Cela fait 2 fois, déplore un cadre de l'une des 3 usines attaquées dimanche. On pensait qu'ils avaient été combattus, mais ils sont revenus encore plus forts. C'est difficile pour nous, témoigne encore cette source. Nous avions déjà été très affectés en juillet. Les compagnies d'assurance ne prennent pas en charge ce type de risque et les autorités ne nous offrent aucune facilité. Mais on va essayer de repartir. Pour la suite de nos activités, je ne sais pas, poursuit un autre cadre industriel concerné par ces attaques. Aucune décision n'a été prise pour le moment. Les 3 sites ravagés dimanche avaient déjà été ciblés en juillet lorsque le JNIM avait mené une série d'attaques le long des frontières sénégalaises et mauritaniennes. À l'époque, 3 travailleurs indiens avaient été enlevés. Ils sont toujours détenus par le JNIM. Diamond Cement avait dans la foulée mis une partie de ses salariés au chômage technique. Le JNIM mène depuis une forme de djihad économique au Mali. Les attaques de camions-citernes ont créé une pénurie de carburant que le renforcement des escortes militaires a permis de réduire un tant soit peu. Des usines et des mines, piliers de l'économie malienne, sont aussi régulièrement visées, comme la mine d'or de Morila, qui a subi une double attaque au début du mois.
David Baché, j'ajoute que les entreprises concernées ne confirment pas les suspicions d'enlèvement d'employés que rapportent certaines sources. Au Sénégal, le député-maire Farbangom, maintenu en détention provisoire, il a été libéré sous contrôle judiciaire après une décision de la Cour suprême hier. Mais le procureur de la République, près le parquet financier, a décidé d'interjeter appel, ce qui a prolongé de fait la détention de ce proche de l'ex-président Macky Sall, en attendant une nouvelle décision. Avec un état de santé que plusieurs rapports d'experts jugent préoccupant, les avocats de Farbangom demandent sa libération provisoire depuis plusieurs mois. L'homme d'affaires Tahir Oussar, en revanche, qui est également accusé de détournement suspecté de 125 milliards de francs, a été libéré préventivement. Il était placé en détention préventive comme Farbangom depuis le 27 février dernier.
Du cacao bloqué au port et la colère des producteurs.
Nous sommes en Côte d'Ivoire avec cette situation. Pour l'instant, enlisés, plusieurs dizaines de camions seraient immobilisés au port d'Abidjan, faute d'un document qui leur permettrait de décharger leurs marchandises avant qu'elles ne soient exportées. Résultat, les stocks s'accumulent, les producteurs ne parviennent plus à écouler, alors même qu'ils attendaient beaucoup de cette campagne, dont le président Ouattara avait fixé le prix Borchamps à 2800 francs CFA le kilo de fèves. Moussa Koné est le président du SINAPSI, syndicat national agricole pour le progrès en Côte d'Ivoire.
À ces jours, la commercialisation est complètement bloqué. Il n'y a pas de déchargement. Alors, il n'y a pas d'enlèvement dans les campements. Et tout ce que les gens ont pris aussi, depuis des mois, ils ont donné le reçu à nos parents. Et l'argent ne vient pas. Les acheteurs et les coopératives, ils nous montrent les magasins remplis. Il y en a même qui nous proposent si on veut reprendre notre cacao puisqu'ils n'ont pas de solution. Cacao, la commercialisation est bloquée. Il n'y a pas d'enlèvement. On a approché les gestionnaires. Les gestionnaires, non, ils n'ont pas de solution. On est en face d'un mévente. Un mévente qui est plus grave que 2016-2017. Au jour d'aujourd'hui, le producteur n'en peut plus. Nous sommes vraiment désespérés. On en a marre, on ne sait pas qui peut venir sauver le producteur.
Moussa Koné du SINAPSI au micro RFI de Binta Diagne. Un léger remaniement, enfin, pour le gouvernement burkinabé de transition. Le secrétaire général du gouvernement a dévoilé hier soir une liste de nouveaux ministres. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo conserve la tête de l'équipe. 22 ministres, 4 départs. Et de nouveaux noms aussi sur les frontons de certains ministères, Alexis Guilleux.
Premier départ, celui du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Roland Somda pâtit de l'élimination du Burkina Faso dès les 8e de finale de la CAN marocaine. Il est remplacé par Annick Lidi-Zingué Ouattara. Exit également Luc Sorgho aux infrastructures, Roger Barrault à l'environnement et Boubacar Sawa Dogo à l'enseignement secondaire. Par ailleurs, ce remaniement est l'occasion de nouvelles dénominations aux tonalités révolutionnaires pour les portefeuilles ministériels. La Défense prend par exemple le nom de ministère de la Guerre et de la Défense Patriotique, avec toujours à sa tête le général de division Célestin Saint-Poré, le ministère de la fonction publique et du travail devient le ministère des serviteurs du peuple. L'habitat et l'urbanisme sont regroupés dans le ministère de la construction de la patrie. Pas de changement au ministère des affaires étrangères, car à Moko, Jean-Marie Traoré reste le chef de la diplomatie burkinabé. Mais la coopération régionale et les Burkinabés de l'extérieur n'apparaissent plus dans son titre. Idem pour Edasso Rodrigue Bayala, toujours ministre de la Justice, mais qui perd le portefeuille des droits humains.
Alexis Guilleux à 6h40 à Ouagadougou, RFI Matin avec vous, Andréane Mellard.
Merci Edouard, on vous retrouve tout à l'heure. Et tout de suite sur RFI, c'est le journal de la Cannes.
Le journal de la Cannes.
La tension monte, J-1 avant les demi-finales de la CAN. Victor Messistrano, la première de ces demi-finales va opposer le Sénégal à l'Égypte.
Et s'il n'y a aucune grosse surprise parmi les quatre équipes encore en lice, les Pharaons sont peut-être les moins attendus dans le dernier carré. Au contraire, des Sénégalais qu'ils affronteront demain, Mohamed Salah et ses compatriotes n'étaient pas cités parmi les favoris avant le tournoi. Ils se sont frayés un chemin en éliminant péniblement le Bénin, puis en écartant la Côte d'Ivoire tenante du titre en quart de finale. Et cela ne doit rien au hasard, selon le sélectionneur égyptien. Osama Sane savoure le succès de ses choix tactiques et salue la performance de ses joueurs.
Nous avons disputé les prolongations contre le Bénin trois jours avant le match face à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je considère que mes joueurs sont des héros, car ils ont affronté une équipe du Bénin qui s'est battue avec beaucoup d'intensité, ce qui a rendu les choses plus difficiles pour nous. Cependant, nous avons pu compenser la blessure de Mohamed Hamdi grâce à Fetou, qui a fait une bonne performance, comme le reste de l'équipe. Aucune autre équipe ne jouait à 5 défenseurs dans cette CAN, et depuis notre match contre l'Afrique du Sud, plusieurs nations nous imitent. Cette manière de jouer est celle qui convient à notre sélection, et nous pensons qu'elle est adaptée pour affronter nos adversaires. J'ai pris cette décision dès le début, et j'ai choisi de jouer de cette façon. En même temps, je dois souligner que chaque match a ses propres circonstances, et que l'étude de l'adversaire est quelque chose de très important.
Des propos recueillis par Martin Guèze, Sénégal-Égypte, c'est demain à 17h, temps universel à Tanger.
L'autre place en finale de cette CAN se jouera, Victor, entre le Nigeria et le Maroc à Rabat.
Le pays hôte qui se rapproche de son rêve, parcours quasi sans faute, 4 victoires en 5 matchs et un nul donc contre le Mali en poule. Neil El Aïnaoui avait été élu homme du match. Il est l'un des rares joueurs à avoir disputé intégralement toutes les rencontres des Lions de l'Atlas dans cette CAN. Milieu relayeur discret mais précieux, l'ancien joueur de Lens, transféré l'été dernier à la Roma, a récemment rejoint la sélection de Walid Regragui. Et à 24 ans, il s'est rapidement imposé comme l'un de ses hommes de base, Christophe Jousset.
Le 26 décembre, Neil El Aïnaoui, désigné homme du match Maroc-Mali, était invité à dire ce qu'il pensait du trophée qu'il venait de recevoir.
Oui, il est sympa, j'ai pas encore eu le temps de bien le regarder, mais bon, honnêtement, là, pour l'instant, je suis plus déçu par le résultat de ce soir, donc voilà, c'est un peu mitigé.
La déception d'un résultat nul, plus forte qu'un trophée individuel. Pas surprenant, surtout pas s'agissant d'un joueur que Walid Regragui loue pour son sens du collectif.
Pour moi, c'est un joueur vraiment d'équipe. C'est pas des joueurs sur qui on met la lumière. Il y a que peut-être les connaisseurs vraiment du football qui vont se rendre compte de son rôle. C'est une pièce maîtresse. Parce qu'au milieu de terrain, il nous donne ce volume. Je pense qu'il tourne 12 ou 13 kilomètres par match. On a retrouvé un peu l'équipe du mondial avec cette intensité.
Français par sa mère, marocain par son père, Neil El Aïnaoui a pris du temps pour finalement décider l'été dernier de rejoindre les Lions de l'Atlas. « Je ne l'attendrai pas longtemps », avait dit le sélectionneur. Aujourd'hui, ravi de pouvoir compter sur lui.
On est très content de l'avoir récupéré au bon moment. Qui continue comme ça et l'avantage qu'il y a, c'est que je peux même l'enflammer. C'est tellement quelqu'un qui garde les pieds sur terre, très bien éduqué. De toute façon, les chiens ne font pas des chats. Son père, c'était un champion. Il n'a pas loupé son fils.
Le père, c'est Younes El Aïnaoui, 14e au classement du tennis mondial en 2003, quart de finaliste en Grand Chelem. Le fils, lui, garde en tête l'objectif de soulever un trophée collectif à l'issue de la finale de la CAN dimanche prochain. Christophe Jousset, Rabat, RFI.
Et pour cela, Andréane, il faudra donc d'abord battre le Nigeria demain en demi. Coup d'envoi 20h, temps universel à Rabat.
Le Gabon avait pour sa part été éliminé au premier tour après 3 défaites en 3 matchs.
Un naufrage qui a coûté sa place à l'encadrement des Panthères. En revanche, la fédération gabonaise a annoncé hier soir que le gouvernement avait levé la suspension de l'équipe nationale et la mise à l'écart de la star Pierre-Emerick Aubameyang et du capitaine Bruno Ekwelemanga. Il pourrait donc rejouer avec la sélection.
Victor Missistrano et l'info de la CAN. Ce qui reste et les autres, rendez-vous sur RFI.fr pour retrouver toutes nos productions. tout de suite, c'est notre revue de presse africaine. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, le djihad économique au Mali.
Ces derniers mois, il y avait les attaques contre les convois de carburant au plus fort de la crise. Rappel Jeune Afrique, en octobre et novembre, Bamako avait subi d'importantes pénuries grippant l'économie de la capitale et entraînant des délestages d'électricité. Désormais, l'approvisionnement en carburant de la capitale s'est amélioré grâce notamment aux escortes armées qui encadrent les camions-citernes. Mais autre front, les autorités de Bamako doivent faire face à des attaques de sites industriels et miniers. Les terroristes, après le blocus économique, veulent empêcher les usines de tourner. Ils ont attaqué 3 usines dimanche dans la région de Kaï, dans l'ouest. Les dégâts sont énormes, confie une source sécuritaire malienne citée par Le Monde Afrique. Cette même source assure que l'État a dépêché des renforts sur le terrain. Pas moins de 160 terroristes circulant à moto auraient pris part à ces attaques.
À cette insécurité chronique s'ajoutent les difficultés du quotidien.
La cherté de la vie n'est plus perçue comme une succession de crises ponctuelles, mais comme une réalité installée, relève le site d'information MaliWeb, qui affecte l'ensemble des couches sociales. Aliments pour bétail, céréales, transports ou produits de base connaissent des hausses répétées, sans cadre de régulation lisible. MaliWeb qui prend l'exemple du sac de 50 kilos d'aliments pour bétail qui se négocie en ce moment à Bamako entre 9 000 et 16 000 francs CFA selon les marchés et les périodes. Un niveau qui met sous pression les ménages pratiquant l'élevage urbain de subsistance. Cette activité, largement tolérée mais peu encadrée, illustre les limites de l'intervention publique dans l'économie du quotidien, pointe le site. Ce phénomène de hausse des prix ne relève pas uniquement de tensions conjoncturelles, non. Il s'inscrit dans une dépendance structurelle aux importations, aggravée par la hausse des coûts de transport, l'insécurité sur certains axes logistiques et la faiblesse de la production locale.
Un contexte économique difficile qui tranche avec le discours officiel rapporté notamment par Sahel Tribune.
Oui, Sahel Tribune qui se félicite de la souveraineté retrouvée du Mali. Depuis 4 ans, explique-t-il, le Mali s'est engagé dans une entreprise titanesque, à savoir reconstruire sa souveraineté par le développement de ses infrastructures, de son énergie et de son économie productive. Derrière cette stratégie impulsée par le général Goïta se dessine le récit politique d'un pays qui entend rompre avec la dépendance, maîtriser ses ressources et affirmer une autonomie totale face aux institutions régionales et internationales aux visées capitalistes et impérialistes. Sahel Tribune met en avant notamment les centrales solaires de Sanankoroba-Safo et Tiaka-Dougou-Dialakoro d'une capacité cumulée de 400 MW, fruit de partenariats diversifiés avec la Russie et la Chine. Ces infrastructures traduisent la volonté inébranlable du Mali de sortir de la dépendance énergétique alors que 70% de sa production reposait encore récemment sur le thermique.
Pour autant, reconnaît Sahel Tribune, le tableau reste fragile.
Le pays demeure en effet frappé par une crise sécuritaire endémique dans le nord et le centre, ce qui ralentit plusieurs chantiers. Les coupures d'électricité persistent, reconnaît encore Sahel Tribune, et la dette publique pèse sur les finances nationales. Mais la rhétorique officielle demeure inébranlable. Le pouvoir entend bâtir malgré la guerre. Bamako ne veut plus subir l'histoire, elle veut la construire.
Enfin, autre sujet, autre pays.
C'est-à-dire dans Afrique Arabia, site spécialisé sur la RDC, au Congo démocratique, les violences sexuelles explosent et l'aide aux victimes diminue. Le Fonds des Nations Unies pour la population a relevé l'année dernière plus de 80 000 cas de viol dans l'est de la RDC, soit une hausse de 32% par rapport à la même période en 2024. Pour sa part, l'ONG Human Rights Watch a récemment documenté les violences sexuelles commises par 5 groupes armés non étatiques et par des soldats de l'armée congolaise. Les victimes de viol sont donc de plus en plus nombreuses et dans le même temps, les équipements de santé manquent, relève encore Afrique Arabia, comme les kits de protection anti-VIH, en cause notamment l'arrêt de l'aide internationale américaine.
Frédéric Couteau, dans une demi-heure, la revue de presse internationale et l'espoir de la liberté en Iran.
Oui, la presse s'interroge ce matin. S'agit-il d'une éphémère rébellion, comme on en a vu tant en Iran, ou alors d'une révolution en règle?
On en parle tout à l'heure à 8h15, heure de Paris.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
L'Iran à nouveau à la une ce matin au 17e jour de contestation dans le pays, un mouvement violemment réprimé par les autorités qui ont également coupé tous les moyens de communication du pays. L'ONG Iran Human Rights, basée à l'étranger, dénombre 648 décès et environ 10 000 arrestations. Les États-Unis, qui ont plusieurs fois menacé d'intervenir militairement, ont annoncé hier par la voix de Donald Trump que tout pays qui commerce avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25%. Des frappes russes nocturne ont fait au moins 4 morts et 6 blessés dans le nord-est de l'Ukraine cette nuit près de Kharkiv. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur régional. Et puis la campagne s'achève ce soir en Ouganda avant les élections présidentielles notamment. Ce sera jeudi. Enfin, la France et le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National devenu RN, avec en jeu notamment la participation à la présidentielle de Marine Le Pen. On en reparle dans notre dossier du prochain journal. 7h49 à Paris, tout de suite, l'invité Afrique. Et à la question, est-ce que la crise entre la France et l'Algérie est terminée? Il répond non, pas encore. Stéphane Romatet en sait quelque chose. Il est l'ambassadeur de France à Alger, rappelé à Paris il y a 8 mois. Et depuis, il n'y est jamais retourné. Invité d'RFI ce matin, il indique tout de même, Stéphane Romatet, que depuis 3 mois, des canaux de communication sont rétablis entre Paris et Alger et qu'une visite en Algérie du ministre français de l'Intérieur est même à l'étude. Il revient avec nous sur les derniers événements qui ont jalonné la relation entre les deux pays. Stéphane Romatet répond aux questions de Christophe Boisbouffier.
Stéphane Romatet, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le 12 novembre, a permis un dégel entre Alger et Paris ?
Cette libération, c'est vrai qu'elle est intervenue à un moment qui a représenté évidemment un signal. La question qui se pose maintenant, c'est ce réengagement peut-il produire des résultats ? Et n'oublions pas que si Boualem Sansal a été libéré, nous avons Christophe Glaise, un de vos confrères, toujours en détention. Et donc on voit bien qu'on est là, vous voyez, dans un contre-signal après celui qu'a pu représenter la libération de Boualem Sansal.
Le dernier fait marquant entre la France et l'Algérie, c'est le vote à l'Assemblée nationale algérienne d'une loi qui criminalise la colonisation française. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle crise entre Alger et Paris ?
Il est clair que le vote de cette loi intervient à un moment qui rend plus compliqué ce processus. Et les autorités françaises ont d'ailleurs qualifié ce projet de loi comme étant une forme d'hostilité à l'égard de la France. Et donc, le double obstacle que représente aujourd'hui le maintien en détention de Christophe Glaise et ce projet de loi sur la criminalisation de la colonisation, ces deux événements rendent aujourd'hui plus compliqué cette volonté de retrouver un chemin d'apaisement avec l'Algérie.
Depuis un an, de Bruno Retailleau à Jordan Bardella, il y a une surenchère de déclaration d'un politique français contre la politique algérienne à l'égard de la France. Est-ce que ces propos ne jettent pas de l'huile sur le feu ?
Je crois qu'il faut être très attentif à ne pas stigmatiser une population. Et c'est vrai qu'on a pu constater, notamment dans certains médias français, des propos souvent hostiles, pas simplement aux dirigeants algériens, mais parfois au-delà de cela, des propos qui s'en prennent à un pays et à une population. Et donc je pense que la responsabilité des dirigeants politiques est de faire très attention, effectivement, au choix des mots pour ne pas stigmatiser un peuple et une population.
Ce qui est frappant dans la résolution proposée par le Rassemblement national il y a 2 mois à l'Assemblée nationale française, c'est que cette proposition a été appuyée par un certain nombre de députés de droite et du centre, et du coup c'est pour ça qu'elle est passée. Est-ce que ce n'est pas le signe, comme dit l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qu'il y a aujourd'hui une majorité politique en France qui est prête à assumer le rapport de force avec l'Algérie ?
Alors moi je ne reprendrai pas ces expression. Je pense que la publicisation en quelque sorte d'un rapport de force ne produit pas de résultats. Et d'ailleurs le ministre de l'Intérieur l'a expressément dit.
Laurent Nunez.
Et je pense qu'au contraire c'est dans la voie de canaux de communication que l'on remet en place. Ça a été le cas depuis maintenant 2 ou 3 mois. Je pense que c'est plutôt cette méthode-là qui est de nature à faire progresser la relation sur les 2 éléments qui sont essentiels pour la France, pour des raisons de sécurité, la reprise de la coopération sécuritaire et la reprise de la coopération migratoire, pour permettre enfin le rééloignement de ce qu'on appelle les OQTF de la France vers l'Algérie.
Les personnes qui sont sous obligation
de quitter le territoire français.
Sur le terrain de la coopération sécuritaire, sur la lutte antiterroriste, est-ce que malgré ces 18 mois de crise, la coopération a continué ou est-ce que même là, les ponts ont été coupés ?
La gravité de cette crise entre la France et l'Algérie s'est traduite en effet par une quasi-suspension de la coopération sécuritaire. Et effectivement, nous constatons que depuis maintenant quelques semaines, des canaux de communication ont été remis en place entre Paris et Alger.
Le 20 novembre dernier, la secrétaire générale du Quai d'Orsay, donc du ministère français des Affaires étrangères, s'est rendue à Alger. Est-ce que c'est le signe d'un début de décrispation ?
Oui, c'est cette démarche qui a été proposée. C'est de reprendre des canaux sécuritaires, c'est le cas. Et il y a aussi eu, par cette visite de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Madame Anne-Marie Descôtes, le rétablissement pour la première fois depuis juillet 2024 d'un canal diplomatique, et notamment pour traiter le sujet de la crise du Sahel.
Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, quand est-ce qu'il va se rendre à Alger ?
Il a été invité en novembre dernier, novembre 2025. Laurent Nunez a reçu une lettre d'invitation pour se rendre à Alger. Il a répondu à cette lettre. Il a d'ailleurs exprimé son souhait de pouvoir se rendre à Alger. Évidemment, cette visite doit être préparée sur les deux sujets qu'on a évoqués déjà à plusieurs reprises, le sécuritaire et le migratoire.
Au moment où nous vous souhaitons la bonne année, monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est l'année où vous allez revenir à Alger ?
Écoutez, je suis maintenant depuis plus de 8 mois en France. Ce qu'il faut, c'est, après une année 2025 qui a été une année très difficile, c'est que cette année 2026 soit une année où nous sortons en quelque sorte de cette ornière. Et évidemment, je suis prêt à y prendre toute ma part, comme vous pouvez l'imaginer.
Monsieur l'ambassadeur, merci.
Stéphane Romaté, ambassadeur de France à Alger, rappelé à Paris il y a 8 mois, il répondait à Christophe Beaubouvier. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque jour aujourd'hui, vous nous dites que parfois, la définition d'un mot échappe au dictionnaire lui-même.
Oui, c'est connu, dans toutes les langues, les mots ont des synonymes, des homonymes, mais dans notre dictionnaire préféré, le Petit Gondwanais illustré, il y a des mots qui ont des visages, des pseudonymes, des noms d'artistes. Par exemple, prenons le mot « enlèvement ». Il a des faces, des visages qui changent en fonction de la latitude ou de ton poids sur la balance de la géopolitique mondiale. L'enlèvement est une activité très lucrative dans le désert gondwanais. Le business model y est très simple, transparent, presque pédagogique. Des hommes arrivent en pick-up, calache à l'épaule, sandales réglementaires et emportent 2-3 personnes en exigeant de l'argent contre leur libération. Beaucoup d'argent en liquide. Pas de suspense, pas de storytelling. On prend des otages, on demande des millions et avec ça, on achète des armes, on recrute, on finance la petite start-up du terrorisme. Ça s'appelle enlèvement contre rançon, kidnapping. Et c'est unanimement condamné par tous les gens normaux qui qualifient ça de terrorisme, menace, barbarie et tout le package. Toujours, dans le Petit Gondwanais illustré, on a la version climatisée qui a la même logique mais un tout autre vocabulaire. Là aussi, des gens sont enlevés, mais on ne dit pas enlèvement. Non, on dit capture, on dit opération spéciale, changement de régime, sécurisation des intérêts stratégique. On ne kidnappe pas dans un pick-up poussiéreux. Non, on te kidnappe dans un hélicoptère, puis on te transvase dans un porte-avions, puis un jet jusqu'au QG du chef des bandits. Et les kidnappeurs ne portent pas de calache, mais un drapeau et un communiqué de presse. Dans la version désert, le groupe armé enlève un ingénieur ou un humanitaire et envoie un communiqué sur Telegram dans lequel il exige 10 millions de dollars, sinon... Dans la version bureau ovale, un commando des forces spéciales enlève un président et le chef fait un post sur les réseaux sociaux. Nous apportons la démocratie, la stabilité et la sécurité énergétique. La différence, ben, y en a beaucoup. Chez les groupes armés, la victime est un otage. Chez les superpowers, c'est un dommage collatéral, un obstacle au processus de transition, un acteur non coopératif. Dans un cas, on cache l'otage dans une grotte, dans l'autre, on le cache dans les mots soigneusement choisis. Sur l'argent, c'est encore plus amusant. Les États répètent « Nous ne payons pas de rançon aux terroristes, cela encourage le crime. » Officiellement, ils ne donneront pas 10 millions pour libérer un otage. Non, 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 ils donneront 10 milliards pour sécuriser le pétrole. Ce n'est pas une rançon, c'est un investissement, disent-ils. Les groupes armés kidnappent contre rançon pour, paraît-il, financer leur lutte, acheter des armes et contrôler un territoire. Les grandes puissances kidnappent, enlèvent pour, paraît-il, défendre nos intérêts, sécuriser nos approvisionnements et stabiliser la région pour le bien de la communauté internationale. Tu vois, il y a enlèvement et enlèvement. Hein. C'est bien pour ça que le Gondwanais lambda enlève sa bouche dans ça. À demain.
Merci Maman, on vous dit à demain et à suivre sur RFI, le journal international de Gaëtan Plenet, suivi de notre revue de presse. Restez avec nous, belle journée, bon réveil.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement. L'information quand vous voulez.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix.
Pascal Paradou.
Un enfant doit fuir la guerre et s'exiler. 50 ans après, Victor de Oliveira se souvient, ravive le souvenir et la langue de sa grand-mère mozambicaine. Il dit aussi son lien avec les milliers de migrants qui traversent les mers. Son nouveau spectacle Kumina conjugue l'autobiographie et le collectif.
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Radio Foot International, spécial Cannes 2025. Annie Gasnier.
Les meilleures sélections africaines réunies au Maroc pour la 35e Cannes, avec leurs stars confirmées ou en devenir. Qui succédera aux éléphants de la Côte d'Ivoire? Qui ira jusqu'au sacre de champion continental? Nos analyses et nos commentaires autour de l'événement phare du foot africain.
Radio Foot International.
Tout à l'heure, à partir de 16h10 TU.
RFI.
RFI, la sélection du mois.
Pete.
Je suis avec le sang. On se pose la question de savoir où s'arrête le temps. On changera pas le monde avec des whisky coke.
C'est égal des sangs. T'as des nuances lentes comme toi, j'en veux.